VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, 13h à Bamako, 14h à N'Djamena, bienvenue à notre journal. On commence par la lutte contre les djihadistes au Sahel. Le président nigérien Muhammadu Buhari se rendra mercredi à Maïdougouri, chef-lieu de la province de Borno, dans le nord-est du Nigeria, pour ouvrir exceptionnellement la conférence annuelle du chef d'état-major des armées nigériane. Réunion initialement prévue à Benin City, dans le sud du pays, mais vu les récentes attaques du groupe djihadiste Boko Haram dans la région du lac Tchad, la présidence nigériane a décidé à la dernière minute de tenir la conférence dans la capitale régionale du Nord-Est. Arrivé au pouvoir en mars 2015, notamment en promettant de mettre fin à l'insurrection islamiste, le président Muhammadu Buhari, un ancien général, avait rapidement assuré que les combattants de Boko Haram étaient techniquement vaincus. Une assertion basée sur les victoires en 2015 et 2016 des armées des pays de la région du lac Tchad, regroupées au sein de la force multinationale conjointe, comprenant le Tchad, le Cameroun, le Niger et le Nigeria. Mais la faction de Boko Haram ayant fait allégeance à l'État islamique a repris ses attaques cette année dans la région du lac Tchad. Le ministre nigérian de la Défense, Mansour Danali, doit se rendre au Tchad cette semaine pour discuter de la situation avec son homologue tchadien, le général Daoud Yahya. Et toujours concernant le Tchad, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou se rendra bientôt au Tchad pour proclamer la reprise des relations diplomatiques avec ce pays d'Afrique à majorité musulmane. C'est ce qu'indique son bureau dans un communiqué. Aucune date n'a été donnée pour la visite. À noter que le président tchadien Idriss Déby Itno effectue en ce moment même un séjour en Israël. Et élection en Afrique maintenant. Au Togo, la principale coalition de l'opposition ne présentera pas de candidat aux élections législatives du 20 décembre. Les opposants appellent à de nouvelles manifestations pour dénoncer des irrégularités dans le processus électoral. Morgan Kiriek nous en dit plus.
Par tout moyen, nous ferons en sorte que ces législatives n'aient pas lieu. Nous ne voulons plus jamais d'élections frauduleuses au Togo, a déclaré Brigitte Adjamagbo-Johnson, coordinatrice de la coalition de l'opposition. Raison de la colère, la Cour constitutionnelle n'a validé aucun des 14 partis membres de la coalition qui est à l'origine des manifestations qui secouent le pays depuis plus d'un an. Nous avons déjà saisi la commission de la CDAO, a ajouté la coordinatrice de la coalition de l'opposition. Cette coalition appelle donc à de nouvelles journées de manifestation, les 29 et 1er décembre. L'opposition exige la recomposition du bureau de la commission électorale, ainsi que la reprise de toutes les activités préparatoires aux élections. La campagne électorale doit démarrer le 4 décembre.
Élections en République démocratique du Congo, les scrutins prévus le 23 décembre dans le pays risquent d'aggraver les crises et les conflits qui secouent le géant de l'Afrique centrale. C'est ce qu'affirme un rapport universitaire américain publié ce mardi. Le GEC, le groupe des experts du Congo de l'Université de New York, estime que si les scrutins se tiennent dans ces conditions, ils risquent de faire tomber le pays dans des années de contestation, de saper davantage la légitimité des élections et d'aggraver les conflits dans l'Est et au Kasaï. Le 23 décembre, il pourrait y avoir plus de 7 millions de voix potentiellement frauduleuses, s'inquiètent les experts du GEC qui recommandent au gouvernement congolais d'autoriser toutes les missions d'observation électorale. Et toujours en RDC, Emmanuel Ramazani Shadary, le candidat du Front commun pour le Congo, la coalition représentant le pouvoir, a tenu hier sa première réunion publique à Lubumbashi, chef-lieu du Katanga minier, que se disputent le pouvoir et l'opposition à l'approche des élections du 23 décembre. Le point avec Irénée Herman Umbo.
Je suis un enfant du Katanga, le Katanga m'a tout donné, a lancé Emmanuel Ramazani Shadary, natif de la province du Maniema, mais qui a fait une partie de ses études à Lubumbashi. Nous sommes rassurés du soutien de l'électorat du Haut-Katanga, se félicite le candidat du Front commun sur son compte Twitter à l'issue de son meeting dans un stade. L'ex-province du Katanga, grande comme l'Espagne, a été redécoupée en 4 provinces en 2015. Ses sols regorgent de richesses minières comme le cuivre et le cobalt. Lubumbashi est aussi l'ancien fief de l'opposant en exil, Moïse Katumbi, ex-gouverneur du Katanga, qui soutient la candidature d'un autre opposant, Martin Fayulu. Samedi, les proches de M. Katumbi ont pu manifester sans heurts à Lubumbashi au nom de la coalition de Lamuka qui soutient Martin Fayulu. L'autre ténor de l'opposition, Félix Tshisekedi, est attendu ce mardi à Kinshasa. Il a obtenu, après une réunion à Nairobi, le soutien de Vital Kamerhe, ancien président de l'Assemblée nationale.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Congo-Brazzaville, les populations se posent des questions sur le suivi des missions du FMI, le Fonds monétaire international. Car jusque-là, le pays n'arrive pas à conclure un accord avec le FMI. Les Congolais restent donc partagés entre déception et espoir, car le Congo-Brazzaville renoue avec la croissance économique. De Brazzaville, le compte-rendu de notre correspondant Arsène Séverin.
Le FMI est à sa quatrième visite à Brazzaville depuis septembre 2017. À chaque mission, les populations se font elles-mêmes l'écho de ces rencontres.
On se demande pourquoi on ne se confie pas réellement au FMI. Est-ce qu'on protège ces gestionnaires qui ont fait preuve d'une gestion scabreuse? On ne comprend pas. Mais dans les rues, quand on cause, en tout cas, il n'y a pas trop de lueur d'espoir.
Dans les régies financières, les missions du FMI perturbent le fonctionnement normal de l'administration, comme le témoigne ici un directeur des affaires administratives.
Fort malheureusement, sa présence à Brazzaville permet plutôt de constater que tout se bloque. Plus de paiement de trésor, plus de virement de salaire. Et là, à ce moment, on se dit, est-ce qu'ils viennent pour nous aider ou ils viennent réellement pour bloquer le pays? Les administrations publiques ont du mal à se faire payer. Mais l'argent ne circule pas. Même qui a émis un engagement au niveau du budget arrive à se faire payer le plus tôt que possible au niveau du trésor.
Au niveau des fins limiers de la finance congolaise, les analyses sur ces missions du FMI divergent. Clément Mirassa, ancien ministre des Petites et Moyennes Entreprises, donne son point de vue.
Est-ce que ceux qui ont plongé le pays dans cette situation sont capables d'apporter les solutions de sortie à cette crise? Et puis cette incapacité à sortir du pétrole est consciente. Si les effets sont comme le chef de la délégation du Fonds monétaire l'a dit, que c'est lié à la remontée des cours du prix du baril du pétrole, ça veut dire que notre situation, elle est très très fragile.
L'avis de l'analyste économique Alphonse Ndongo montre que malgré l'absence d'un accord d'aide avec le FMI, le Congo a fait plusieurs efforts.
Je crois qu'il est tout à fait normal que les autorités congolaises ne sont plus dans la même situation qu'il y a 2 ans pour essayer donc maintenant d'actualiser la position, les indicateurs économiques du Congo. Et quand vous regardez l'actuel budget, vous avez espoir parce qu'on renoue avec la croissance. En 2019, on nous annonce quand même un taux de croissance qui est au-delà de 3%. C'est déjà important. Je vous apprends qu'en 2016, le taux de croissance du Congo était négatif. Donc, c'est normal qu'aujourd'hui, le FMI qui vient traiter avec nous tienne compte maintenant de cette nouvelle donnée. On ne sera plus quand même dans une position où on doit ingurgiter la potion amère que le FMI aurait dû nous faire ingurgiter il y a 2 ans.
Le Congo court toujours après un accord avec le FMI et son dossier n'est pas dans l'agenda du conseil d'administration de ce mois de décembre. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Actualité hors d'Afrique, maintenant, relations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. La première ministre britannique, Theresa May, a exhorté lundi des députés très sceptiques de son pays à soutenir l'accord de divorce obtenu la veille avec l'Union européenne. Les détails avec Raïssa Girondin.
Theresa May a réaffirmé son absolue certitude qu'il n'y a pas de meilleur accord possible. Elle a appelé les parlementaires à le soutenir au nom de l'intérêt national. Un rejet serait un retour à la case départ qui ouvrirait la porte à plus de divisions et d'incertitudes, a-t-elle ajouté. Dimanche, un sommet européen a scellé l'accord de divorce entre Londres et Bruxelles. Après 17 mois de négociations difficiles, les députés britanniques doivent le ratifier avant leur pause qui commence le 21 décembre. Jeremy Corbyn, chef du Parti travailliste, principal parti d'opposition, a rétorqué que l'accord était un acte d'automutilation nationale et que, selon lui, cette assemblée n'a d'autre choix que de le rejeter. La tâche de Theresa May sera encore plus compliquée. Elle dispose au Parlement d'une courte majorité. Son petit allié nord-irlandais a prévenu qu'il voterait contre à cause du statut spécial accordé à l'Irlande du Nord. Du côté des partisans du Brexit, l'ex-chef de la diplomatie Boris Johnson estime que l'accord est un désastre et une humiliation pour le Royaume-Uni, qui selon lui demeure un État satellite de l'Union européenne. Mais Jeremy Hunt, son successeur aux affaires étrangères, estime que beaucoup de choses peuvent changer dans les 2 semaines à venir.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. www.voanfrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.